Je suis son flic. Je regarde sa chemise neuve, sa cravate, assortie à son costume marron, d'un beige un peu doré. C'est dommage pour cette chemise neuve d'être ainsi tombée sur un condamné à mort.
Les filles, vous m'entendez ?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go away, Tom.
Allez, action!
Help!
Action, pourquoi faire ?
Ils n'avaient jamais travaillé ensemble, nous ne les avions jamais rencontrés avant. Ils sont là tous les deux avec nous ce matin, c'est ce qu'on appelle une belle conjonction d'étoiles, à un moment T pour un film unique. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie.
Ouais, c'est vrai. Juin 44, une femme attend son mari, arrêté et déporté, elle va écrire cette insoutenable attente. Cette agonie lente et silencieuse, c'est un livre, La douleur de Marguerite Duras, et maintenant, c'est un film. Bonjour Emmanuel Finkel.
Bonjour.
Un film dans lequel vous avez réussi à capter au plus près ce sentiment abstrait, la présence de l'absence. Marguerite Duras, réincarnée par Mélanie Thierry. En face d'elle, un agent français de la Gestapo, Rabié, avec lequel elle entretient une relation ambiguë. Bonjour Benoît Magimel.
Bonjour.
Rabié, c'est vous, cet homme trouble dont vous avez réussi à restituer toutes les nuances de gris. La douleur, ce grand film sort mercredi prochain. Les petits nouveaux de cette semaine, à côté de la grande et belle surprise américaine, les panneaux de la vengeance, un catalogue de sujets lourds. Attentats néo-nazis, le cancer d'une mère, la spoliation des biens juifs en Hongrie, une famille dingue en Pologne, un ado pauvre en Inde, ou la propagande islamiste par Internet en Algérie. D'ailleurs, Emmanuel Finkel, il n'y a pas de sujets lourds. Il y a des bons ou des mauvais traitements de sujets, non ?
Ah bah, je suis tout à fait d'accord. On peut très bien voyager très très loin avec des sujets lourds et s'ennuyer terriblement sur des sujets dits légers. Oui, oui, non, non, ça veut rien dire.
Benoît Magimel, il n'y a pas de rôle lourd. Il y a des bons et des mauvais rôles.
Oui, et il y a des bons et des mauvais metteurs en scène.
Des noms, des noms.
Non, là, en l'occurrence, c'était extrêmement bien servi. J'avais des bons partenaires. Donc, non, non, c'est les personnages, en fait, ont tous ont leur épaisseur, chacun. Ouais.
Je marche sur la chaussée. Il n'y a pas d'auto. Le mécanisme de la vision se trouble. Je ne distingue plus. Mais je continue à marcher. Je passe de la chaussée au trottoir. Et puis je reviens à la chaussée. Je marche. Mes pieds marchent. Je vois les grands immeubles du carrefour de Sèvres tanguer dans le ciel. Et les trottoirs se creuser, noircir. Je ne distingue plus, mais je continue à marcher. Je marche, mes pieds marchent. Je passe de la chaussée au trottoir, et puis je reviens à la chaussée. Je crois éprouver un léger regret d'avoir raté de mourir vivante. Je ne sais quoi faire de la liberté. J'ai peur d'être tuée. J'ai honte de vivre. Et je me dis que si je ne meurs pas, je te reverrai. Qu'il me faut être vivante pour te revoir.
Juin 1944, sous l'occupation, Robert Antelme, l'écrivain et figure de la résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune femme Marguerite, écrivain et résistante, tiraillée entre l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dionys. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabié. C'est vous, Benoît Magimel, qui l'incarnez. Dans l'espoir de retrouver son mari, se met à l'épreuve d'une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul capable de pouvoir l'aider. Emmanuel Finkel, vous avez lu La douleur quand vous aviez 19 ans.
Oui, en fait, on m'a signalé que c'était pas possible puisqu'il est sorti 1985. Ah. Et dans mon souvenir, je suis resté jeune.
Vous êtes toujours très jeune.
Il semblerait que je l'ai lu plutôt à 25 ans.
Est-ce que vous l'avez lu à travers les yeux, la tête, la conscience de votre père qui a attendu longtemps le retour des camps de sa famille?
C'est-à-dire que quand j'ai ouvert le livre, je ne pensais pas que ça allait raconter des choses que finalement j'avais connues. Et c'est ça qui m'a bouleversé à la lecture, c'est que je voyais écrit là cette atmosphère sur laquelle je pouvais pas mettre de nom, à 19 comme à 25 ans, et que là, l'ambiance était dépliée devant moi, et c'était quelque chose qui évidemment me rappelait fortement ce que j'avais connu au contact de mon père.
Est-ce qu'il y avait une injonction inconsciente de l'adapter un jour ?
Alors ça... Je paye depuis très longtemps un psy, je n'ai pas encore la réponse. Si vous l'avez, vous me faites faire des économies.
C'est volé.
Oui, très certainement, il n'y a pas de hasard. Vous savez, très souvent, c'est les sujets qui vous prennent plutôt que vous les preniez. C'est sans doute pas un hasard que je me retrouve encore à régler ces choses-là, oui.
Benoît Magimel, vous n'avez pas lu La Douleur, pas par paresse, mais plutôt parce que vous vouliez vous concentrer sur le scénario et rien que le scénario.
Oui, j'aime bien cette idée-là, en fait, pas s'encombrer avec déjà... C'est une adaptation, donc en fait, la partition, elle est écrite par le réalisateur, et c'est à partir de ça qu'on travaille, je trouve. Et puis d'avoir plus de liberté, peut-être, mais c'est d'abord le regard de Manuel qui m'intéressait, et puis voilà, de travailler avec lui, de composer ce personnage qui a plusieurs épaisseurs, plusieurs couches, comme ça, très ambigu, très ambivalent.
Comment on travaille tout seul, un personnage aussi trouble que Rabier, comment on le travaille? Comment on l'approche?
Je crois que c'est quelqu'un qui a plusieurs visages et c'est comme travailler sur plusieurs personnages à la fois, en fait. Et c'est vrai qu'on avait le souci avec Emmanuel de... On pensait beaucoup aux spectateurs, évidemment, et on essayait de brouiller les pistes, enfin, s'interroger à chaque fois sur sa personnalité, sa conscience aussi... Dans ce délire, hein, quand même, d'essayer de séduire la femme d'un homme qu'on a arrêté, qu'on envoie dans des camps, et voilà, c'est un personnage vraiment extrêmement intéressant à faire parce qu'il est inattendu, en fait.
Est-ce que vous pouvez être l'avocat d'un rôle, vous? Est-ce que vous pouvez vous dire, je vais défendre ce type-là?
Oui, mais faut pas essayer de chercher à sauver ces personnages à tout prix.
Défendre, pas sauver.
Oui, les défendre, mais en même temps, oui, les comprendre. En tout cas, je pense que comme tous les grands bourreaux, il y a aussi, c'est pas un immense bourreau, mais je dirais que c'est un salaud, mais en même temps, il est extrêmement séduisant. Et c'est comme souvent, hein, ils sont séduisants, attachants, sensibles. Hein, c'est ce qui les rend troubles. Hein, et en même temps, ils sont capables du pire. Et
Le pari, c'est de l'incarner aussi, c'est-à-dire c'est de lui donner une apparence physique, ce que vous faites avec une sorte de costume corseté, enfin, il y a tout un travail sur votre apparence, votre corps, votre façon de vous déplacer dans l'espace.
Oui, c'est gentil.
Non, mais c'est vrai.
Je voulais quelqu'un de bien portant, en fait.
Voilà,
hein.
Ouais.
Voilà. Absolument. C'était important de le voir comme ça, parce que c'est un type qui est bien nourri, hein. Il parle beaucoup de nourriture. Hein.
Dans ce panorama de privation et de...
Exactement, voilà. On est dans une époque quand même où tout est rationné, et lui... La première image qu'on voit, c'est quand même un type qui se porte bien, qui est un bon vivant et qui a pas l'impression d'avoir qui vit dans une époque tout à fait normale.
Et plus une double pression parce que le personnage a vraiment existé. Il s'appelait Charles Delval. Est-ce que vous avez essayé d'en savoir plus sur lui?
Non, pas plus que ça.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est d'abord ce que veut raconter Emmanuel Finkiel, et comment il le voit, comment il veut le dessiner. Donc c'est vraiment ce travail-là qui est le plus intéressant. Je crois que c'est pas, même si ça reste des personnages qui ont existé, on fait pas une reconstitution historique. C'est pas des personnages comme Louis XIV ou Musset où on a besoin de se coller. Je pense que le travail de Mélanie était en l'occurrence pour incarner Marguerite Duras. Je pense qu'il y avait un travail beaucoup plus profond à faire. Personne connaissait Rabier, enfin.
Mais est-ce qu'il y a besoin de savoir, question à tous les deux, est-ce qu'il y a besoin de répondre à une énigme? Était-il amoureux ou se servait-il d'elle? Est-ce que vous avez besoin de savoir ça? Ou de donner de vos propres réponses à cela?
Personnellement, moi, je suis pas pour. Et d'ailleurs, Dieu merci, les acteurs avec lesquels j'ai travaillé, notamment Benoît, ce ne sont pas des acteurs, vous voyez, où on parle des soirées entières et où on fait de la psychologie. On est tout à fait dans, on se dit, tout se joue dans l'incarnation au moment où on tourne le film. Alors, évidemment, il faut s'entendre un tout petit peu à l'avance. Mais à partir du moment où c'est Benoît Magimel qui incarne ce personnage, moi je filme Benoît Magimel.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Et pourquoi lui? Parce que pour son côté taiseux, instinctif, voyez, organique des rôles.
Ben, vous avez répondu 90% à la question. Je mettrais 10%. C'est que, quelle que soit la monstruosité du personnage qu'il peut incarner, il a toujours ses yeux d'enfant que la caméra sait tout à fait reconnaître. Et ça, c'est ça qui fait la chose, je trouve.
On va écouter, ceci expliquant cela, on va écouter la scène, une des scènes de restaurant avec vous, Benoît Magimel, et Mélanie Thierry.
Marguerite, je vous en prie, asseyez-vous.
On voit que ce soit écrit.
Ça vous dérange pas qu'on nous voit ici ensemble, parmi vos pères? J'ai terminé votre livre, hein. C'est remarquable. Vraiment.
Je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari.
Vous connaissez cet homme ? Là ? Ici ?
Non, je ne vois pas.
Cherchez un peu.
C'est qui ?
Morlan, ça vous dit rien ?
Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je peux rien pour vous, je ne le connais pas. Je vous l'ai déjà dit, je m'occupais pas des affaires de mon mari.
Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert soit pas déporté.
Comment ça, déporté ? Comment ça, mais pour où ? Pourquoi vous dites rien ?
Regardez les photos. Vous connaissez cet homme, vous l'avez déjà vu, c'est forcément. Forcément. Regardez. Regardez, s'il vous plaît. Si vous m'aidez, je vous affirme que Robert restera un frêne. C'est une promesse. Ça vous dit rien?
Même si je le connaissais, je vous le dirais pas. Ce serait absolument abject de ma part de vous donner des renseignements pareils.
François Morlan, c'est le chef du réseau auquel appartenait votre mari. C'est un homme qui vaut 250 000 francs. Bon, ça, c'est pas très important. Ça m'intéresse pas, l'argent.
Si vous pensez que je pourrais dénoncer, pour quelle femme me prenez-vous?
Quoi? C'est si important que ça, ce que je pense de vous?
Mais même si je le connaissais, je ne vous le dirais pas.
Vous le connaissez pas?
Non. Il se trouve que je ne le connais pas. Je l'ai jamais vu, il est jamais venu à la maison. Écoutez, je vous en supplie. Je vous en supplie, si vous pouvez quelque chose, faites-le. Je vous en supplie. Vous aimez ça, que je vous supplie.
Je connais un officier, il travaille à Fresnes. C'est lui qui est chargé de transit. Il vous dira quel convoi.
Un convoi pour où? Vous savez, vous bluffez. Je sais que vous pouvez rien pour lui et vous bluffez.
Je vous donne un laissez-passer. Avec ça, vous pouvez rentrer. Tenez, prenez ça. Tout ce que je peux faire.
Emmanuel Finkiel, j'avais jamais ressenti un climat aussi délétère de l'occupation depuis l'armée des ombres de Melville. Oui. Un climat, on est dans une bulle atroce, quoi.
Écoutez, quand on lit le récit de Duras, on se rend compte à quel point tout ça est une histoire franco-française. Oui. Une espèce de marais dans lequel les haines quasi fraternelles... C'est terrible ce qui s'est passé en France. Il y a, bien sûr, le fait des Allemands, et il y a quand même aussi cette histoire de France... Il y a un régime fasciste, C'est-à-dire, le régime n'est pas qu'un régime en réaction à l'occupation allemande. Il y a un régime, le régime de Vichy, a une idéologie en soi.
C'est quelque part l'affaire Dreyfus qui continue. Moi, enfin, c'est la France de l'affaire Dreyfus.
Moi, je pense, oui. Mmh. Je pense qu'absolument. Mmh.
Cette non-résolution qui trouve sa résolution bien ambiguë, bien.
La résolution, elle s'est appelée la solution finale.
Oui, dans l'occurrence pour le. Oui.
Oui, c'est. Je en lisant, on sent bien que tout ça, ce que je veux dire, c'est franco-français. Mmh. Et notamment cette grande scène dans le film, qui est aussi une scène importante dans le récit de ce restaurant Saint-Georges, un restaurant de collabo, de marché noir, où la fine fleur de la collaboration fraye avec les uniformes vert de gris, et dans lequel on sent Crabier à son rond de serviette, si je puis dire.
Ça passe droit.
Oui, ça donne le tournis.
D'ailleurs, est-ce que ça donne le tournis, Benoît? De tourner dans, c'est vrai, ce climat délétère que nous, spectateurs, on ressent, je suppose que vous l'avez, vous aussi, ressenti sur le plateau, ça doit coller au costume, ça, non?
Oui, certainement, et en même temps, c'est un personnage qui vit bien dans son époque, hein, il est.
Il veut être libraire après l'occupation.
Oui, c'est ça, il y a une forme d'insouciance, on a l'impression qu'il n'est pas conscient, en fait. Il le vit d'une façon extrêmement légère. Hein. Il fait son métier, il le fait bien. Je sais pas, moi je m'interrogeais sur effectivement, est-ce que c'est un homme qui a une idéologie très forte ancrée en lui, quelles sont ses croyances véritables. On n'arrive pas à savoir. Oui, c'est comme si voilà, il avait accepté de faire un travail et qu'il le menait à bien, sans pression. Voilà, il est trouble encore une fois et c'est un renard et en même temps. Il a une délicatesse, une forme de naïveté aussi. Il est un petit peu lourdeau quand même.
Et d'admiration aussi pour cette femme intrigante, quoi. Vous le dites, Emmanuel Finkel, une femme un peu égocentrique, pleine de paradoxes et faisant souvent le contraire de ce qu'elle dit.
Oui, mais ce qui le fascine, je pense, c'est que elle appartient à ce cercle qui, pour lui, est un cercle admiré, qui est le cercle des intellectuels, et en plus une femme. Jolie femme. Et effectivement, moi, je pense qu'au niveau de son idéologie, il pensait vraiment, il faisait partie de ces Français qui pensaient vraiment que tout ce que l'Allemagne allait construire une Europe dans laquelle la France, une certaine France, allait avoir toute son importance et que des loyaux soldats de cette France pouvaient avoir une place que peut-être dans la société civile d'avant-guerre, il n'avait pas. C'est un peu le sens de ce qu'il lui dit après, en lui disant que s'il l'avait rencontré, s'il s'était rencontré quelques années auparavant, elle l'aurait même pas regardé. Tellement ces gens, ces élites ne regardent pas les petites gens.
Benoît, j'ai juste une question qui me vient. Est-ce que petit, dans votre enfance, votre famille, on vous a raconté cette grande histoire? Est-ce que c'était présent dans votre vie, ça?
Oui. Moi, je crois que j'avais un grand-père qui avait été dans les camps de travail. Oui, forcément, on a des témoignages.
Et vous, dans votre famille, ce grand-père?
Oui, ce grand-père. Mes deux grands-pères, d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est vrai que je l'ai découvert aussi à travers mon métier, parce que j'ai eu l'occasion de faire des films qui retraçaient cette époque. Et c'est vrai qu'on est plongé complètement, on est à l'intérieur, on est dans un quotidien en fait. Dans ce film, on vit le quotidien de l'occupation, quoi. On voit ce que c'est comme ça, au jour le jour. C'est plus intime en fait, comme on regarde ça moins avec un grand H comme l'histoire, vous voyez. Voilà.
Un mot quand même, Emmanuel Finkel, pour dire que le François Morland dont il est question dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est François Mitterrand. Donc ça rejoint la grande histoire, hein, cette histoire-là.
Oui,
c'est-à-dire que c'est un chef important de la résistance, sa mise à prix est forte.
Oui.
Et ça, c'est quand même une dimension aussi du livre de Duras. C'est l'inscription dans une véritable réalité de l'histoire de la résistance française.
Que là, elle garde le vrai patronyme de guerre de Mitterrand, alors que les autres noms...
Les autres noms sont changés.
Mais je pense que c'est comme elle parle de Gaulle après. Par exemple, quand elle cite les noms des gens du réseau, ce sont les vrais noms. Je crois que la réalité, si je puis dire, historique, est très importante pour elle dans son récit.
D'autant plus qu'elle ment par ailleurs. C'est du mentir vrai, comme
c'est du mentir vrai, mais vous savez, je pense que quand il y a construction artistique, les mensonges disent souvent mieux la vérité que le témoignage documentaire. C'est comme ça. Hein.
Et est-ce qu'elle se ment à elle-même?
Mais c'est tout le sens même de... Et si c'était ça, la douleur?
Mais oui, mais oui.
C'est pour ça que dans le film, on l'a dédoublé à quelques reprises. C'est exactement ça. Comme si l'une n'était pas dupe d'elle-même, en quelque sorte. Donc, je les ai séparés. Je pense que oui, il y a un acte, comme la Sartre l'appelait, de mauvaise foi.
On va l'écouter, justement, par rapport à cette double vie avec son amant Dionis Mascolo, qui est incarné par Benjamin Biolay.
Il est tard, il ne se passera plus rien maintenant. Il faut aller dormir. Allez vous coucher, je vais vous faire monter à manger. Vous avez entendu ce qu'a dit le docteur?
Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un vide. Je comprends pas. Il était dans la colonne. De la colonne, il s'est évadé. On l'a rattrapé. On l'a tapé. Mais après... on l'a vu debout. Il l'a bien dit qu'il l'avait vu debout. Alors pourquoi ils l'ont pas vu à la gare?
Vous savez très bien que ça veut rien dire. Allez vous allonger.
Vous savez quelque chose?
C'est rien.
Si vous savez quelque chose.
Vous tournez en rond dans votre tête. Interprétez les signes comme bon vous semble. Vous fuyez le présent.
Non, tu te trompes. Tombe gravement. Garde Madame Borde, Madame Katz, moi. Toutes celles qui attendent. Nous ne sommes que présents. Nous sommes accrochés à quelque chose comme Dieu. Scellés à Dieu.
Dieu. Décidément, toutes les conneries, vous les aurez dites.
On sait qu'à vous. Ça vous donnait rien. Vous en foutez, hein? Même de votre meilleur ami, au fond, vous vous en foutez.
Pardon? Ce que vous avez dit?
Alors quoi? Vous allez me frapper? Quoi? Alors vas-y, frappe! Non, peut-être que ça t'arrange qu'elle revienne pas! C'est plus facile comme ça!
C'est un monstre. Vous êtes une folle. Tenez, regardez-vous. Regardez-vous! Vous ressemblez à rien. Vous voulez prouver quoi? Et à qui? Quand vous y repenserez, vous aurez honte.
J'ai rien à cacher. Rien.
Extrait de la douleur. Emmanuel Finkiel, Dionis Mascolo va la mettre un peu face à la vérité. La différence entre un livre et un film, eh ben, c'est cette phrase, et elle est de vous dans le film. Il lui dit, vous êtes plus attaché à votre douleur ou à Robert Anthelme. Ça, c'est vraiment, ça vient de vous, ça vient pas du livre.
Non, mais...
C'est tout le questionnement du film.
Mais moi, je considère que ça vient quand même du livre, parce que... cette constatation, elle amène le lecteur à se la faire. C'est-à-dire, à un moment donné, elle fait tellement de cirque et au lieu d'aller dans la rue le chercher, elle tourne en rond dans son appartement, elle part dans une crise de nerfs, etc. Donc, on y pense fatalement. Par ailleurs, elle décrit Dionis qu'elle fait très peu parler dans son récit. Il a une place très, très... C'est peut-être ça le plus gros mensonge, sans doute. Tout en filigrane, il est tout le temps là, le matin, l'après-midi, le soir, mais elle ne dit rien sur leur relation, et on ne sait pas qui il est. Mais de temps en temps, elle nous dit qu'il la traite de folle, et qu'il l'accule dans ses retranchements. Donc j'ai simplement incarné ça, vous voyez.
À l'arrivée, le film est terminé, ça y est.
Oui.
Vous avez exorcisé quelque chose, vous avez trouvé quelque chose... Vous ressentez quoi, là?
J'en sors un peu vidé, en étant tout à fait franc.
Oui.
Je me sens un peu vidé, parce que bon, mais je crois que c'est parce que ça a été long, intense, et puis évidemment, ça touchait des choses personnelles. Donc, dans ces cas-là, pareil pour Mélanie, je pense, on met beaucoup de choses de personnelles là-dedans. Et puis, c'est pas anodin, quoi, c'est pas anecdotique.
Et ça, vous l'avez ressenti, Benoît Magimel, le fait que ça soit justement pas anodin et pas anecdotique, plus qu'un autre film avec un autre metteur en scène?
Oui, il y a quelque chose de nécessaire. Et c'est vrai que quand je les regardais avec Mélanie, je voyais à quel point... Bon, en même temps, moi, c'est quelqu'un d'engagé, Emmanuel. Donc, dans chacun de ses films, je pense qu'il y a cet engagement. Et puis, il y a toujours quelque chose de personnel qu'il raconte, donc forcément c'est nourri et il y a même une urgence. Hein. Et ça a été un tournage compliqué. On était un peu dans un, on était au moment de Paris avec tous ces problèmes qu'il y a eu d'attentats, tout ça. On avait énormément de complications. Et on avait l'impression d'être quand même d'être dans un étau, quoi, et que il fallait que ça avance, quoi. Et, non, il y avait cette urgence, mais c'est vrai que je les ai sentis épuisés souvent. Hein. Il y avait quelque chose comme ça de... Oui,
et même problème financier aussi.
Oui. Mais oui, mais c'est ça, c'est que si vous voulez, c'est un film sur le papier qui nécessitait...
Grande reconstitution historique.
Oui, enfin, il fallait que les choses quand même existent bien, et puis elle focalise Paris à une grande importance. Dans le récit, et je tenais à ce que Paris soit un personnage quelque part aussi. Et tout ça, évidemment, dans un climat d'état d'urgence où il est difficile de bloquer les rues, etc. C'était difficile, c'était difficile. Et puis, oui, il y a eu à des moments des petites pannes d'argent qui nous a obligés d'interrompre le tournage.
Vous avez été assistant notamment de Godard et de Kieslowski, et vous dites, j'aime bien, vous dites ces films qui parlent de l'âme, qui s'approchent de ce qu'il y a de plus intime chez l'être humain. Oui. Ben, c'est ça que vous avez retenu de beaucoup de Kieslowski.
Oh, sans doute, en tout cas, moi c'est quelque chose. Quand en tant que spectateur, ce sont ces films-là qui me transportent. Et c'est vrai que Kieslowski était un maître pour fouiller l'âme humaine, je trouve.
On va vous retrouver dans un extrait encore, Madame Agimel, encore au restaurant, avec Mélanie Thierry.
Elle a peur. Elle a raison d'avoir peur. Si on commandait du vin...
Oui, pourquoi pas. Garçon,
oui.
Une bouteille de Pouilly. Merci.
Et votre porte à vous?
La porte?
Elle est blindée?
Moi, je n'ai pas peur.
S'il vous plaît, madame.
Je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait un choix et je l'assume.
Ah, madame? Monsieur?
Merci. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je devais arrêter des juifs. Nous sommes arrivés dans l'appartement, il n'y avait personne. Dans la salle à manger, sur la table, il y avait un dessin d'enfant avec des crayons de couleur. Et bien, je suis reparti sans attendre les gens. J'ai épargné cette famille. C'est loin d'être la seule, d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que je vous aurais prévenu. Au cas où... On aurait voulu vous arrêter.
À nouveau devant la vie, le petit juif et moi. Vous préparez vos arrières? Le vin change tout.
Vous me jugez?
Je suis son flic.
Vous ne connaissez pas, vous savez rien de moi. Votre livre. Permettez.
Déjà, il a moins d'importance. Il n'est plus rien.
Le gouffre
en n'est qu'un agent de police allemande.
La journée semblait se refermer sur elle comme une mer sur une épave.
Je suis son flic. Je regarde sa chemise neuve, sa cravate, assortie à son costume marron, d'un beige un peu doré. C'est dommage pour cette chemise neuve d'être ainsi tombée sur un condamné à mort.
C'est magnifique. Ça me parle. Quand je lis ça, j'ai l'impression que ça a été écrit pour moi.
La peur m'a quitté.
Excuse-moi, vous dites?
Elle me regarde.
Vous me faites boire. Ma destinée a toujours été entre vos mains.
Si c'est moi qui tenais sa destinée dans mes mains. La peur m'a quitté. Maintenant, ce sont eux qui ont peur.
Tu veux danser, peut-être?
Ça va vite. Je ne pense pas.
Tous ces gens, tous menacés de mort dans les quelques jours ou les semaines qui viennent, ils le savent déjà. Il ne peut déjà plus en être autrement. Bientôt tous sont de l'outil. Je viens d'un autre pays qu'eux. Je viens de la France.
Voilà, ça s'appelle La douleur, Emmanuel Finkiel, ça sort mercredi prochain.
Les grands livres font rarement des grands films, Christine, oui, ici c'est Paris tenu.
Oui, merci Madame Agimel aussi, et vous restez tous les deux avec merci. Nous après Rail, on se retrouve pour les sorties de la semaine. I'm not awake. I'm not alone. You're right beside my face. Will you love me this way? 'Cause I'm dancing with my eyes closed. It's okay, it's me, babe. One more time for my taste. One more time for my taste. See me fall from your eyes to your waist. One more time for my taste. Drink this wine from your sweet, from your case. I feel your love, I feel your faithful ways. You're not awake. You're not alone. Dancing with your eyes closed. It's okay, it's me, babe. One more time for my taste. Les sorties de cette semaine, Laurent, attention.
Oui, Christine.
On va commencer par Enquête au paradis. Tiens, le retour de Merzak Alouache.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
C'est un doc fictionné. Nejma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une enquête sur les représentations du paradis véhiculé par la propagande islamiste et les prédicateurs salafistes du Maghreb et du Moyen-Orient à travers des vidéos circulant sur Internet. Mustapha, son collègue, l'assiste et l'accompagne dans cette enquête qui la conduira à sillonner l'Algérie. Nejma est une actrice, mais pose des questions à de vrais gens.
Exactement. Je vous rappelle quand même que la promesse, c'est 72 vierges. Hein. C'est quand même ça qui fait fantasmer, apparemment. Mais en revanche, rien pour une femme. Hein. Si on est une femme, on n'a pas 72 hommes vierges à sa disposition. Là aussi, déjà, même au paradis, la différence homme-femme dans les religions existe toujours. Non, effectivement, c'est un vrai faux doc. Hein. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est une actrice qui pose, comme vous le disiez, des questions aux vrais gens. C'est très, très intéressant parce que c'est une enquête presque impossible, c'est-à-dire que effectivement, il y a énormément de non-réponses, il y a énormément de religieux qui ne veulent pas répondre, qui ne veulent pas aller sur ce terrain-là, qui ne souhaitent pas en parler. Il y a aussi, et c'est ça qui fait tout le prix du travail de Mirza Kalwash, d'autres discours, c'est-à-dire des musulmans pratiquants, convaincus, de religieux certes, mais qui ont un tout autre discours et qui pensent que, évidemment, la vérité n'est pas là, évidemment, l'avenir surtout n'est pas là. C'est ce qui fait vraiment tout le prix de cette enquête au paradis de Mirza Kalwash.
Vous attendiez un grand film américain, le voici, Three Billboards, Les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh. Une femme, c'est Frances McDormand, la grande Frances McDormand, la mère d'une jeune fille assassinée dont le meurtrier n'a jamais été retrouvé, qui va harceler la police locale en louant trois panneaux à l'entrée de la ville et sur lesquels elle les interpelle violemment. Un grand récit, non pas de vengeance, mais un traitement subtil de la culpabilité, la sienne, de ne pas avoir été une bonne mère, et celle surtout de la police qui, dit-elle, sans filtre, préfère pourchasser les Noirs plutôt que de s'occuper des vrais coupables. Elle va provoquer un tsunami dans cette petite ville du Missouri, affronter dans un duel très humain le shérif local, c'est Woody Harrelson, retourner son adjoint raciste, c'est Sam Rockwell, et vaincre sa douleur dans une démonstration implacable. Pas de clichés, beaucoup d'empathie pour les personnages, des scènes au dialogue puissant qui mêlent violence, humour et émotion, et c'est le plus grand rôle de McDormand depuis Fargo.
C'est un film intéressant qui marche bien en salle.
Oui. La juste route de Ferenc Torok, hongrois, en août 45, au cœur de la Hongrie, un village s'apprête à célébrer le mariage du fils du notaire, tandis que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés de lourdes caisses. Un bruit circule qu'ils sont les héritiers de déportés et que d'autres, plus nombreux, peuvent venir réclamer leurs biens. Leur arrivée questionne la responsabilité de certains et bouleverse bien sûr le destin des jeunes mariés, Laurent.
Magnifique film en noir et blanc, très très belle image, mais pour un discours qui est moins beau, c'est-à-dire évidemment sur le, c'est un discours sur la culpabilité de ce petit village qui est qui a été fasciste, qui n'est pas encore communiste, qui donc entre deux moments absolument abominables de son existence, et cette culpabilité qu'apporte avec eux ces deux juifs chargés de choses, je n'en dis pas plus, je ne parle pas non plus de la résolution du film, sinon on m'en voudrait, on aurait raison, mais c'est vraiment un fer rouge porté sur notamment la difficile question de la restitution des biens juifs spoliés pendant l'occupation, et de ce point de vue-là, ben, en Hongrie comme ailleurs d'ailleurs, c'est une question qui fait mal et qui est une question qui travaille, et que le film travaille avec de la fiction. Ça rejoint aussi certainement les propos d'Emmanuel Finkiel, et je trouve que c'est un très très beau portrait de cette culpabilité potentielle. Ça s'appelle La juste route de Ferenc Torok.
The Last Familista, un premier film polonais signé Jan Matuszynski. C'est le portrait singulier d'une famille d'artistes, Beksiński, peintre surréaliste polonais, sa femme Zofia et leur fils impulsif et suicidaire Tomasz, célèbre animateur radio appuyé sur les archives et vidéos enregistrées par Beksiński, chronique intime d'une famille hors normes. On n'est pas d'accord là-dessus, donc parole à l'accusation. D'abord.
Ah bah voyons comme c'est ben facile. Oui, oui, bah alors l'accusation...
C'est la défense qui termine. Hein.
Oui, dans les prétoires, mais enfin ici nous sommes à France Inter. Mais alors, petite quand même curiosité, c'est donc un film polonais, vous l'avez dit, et il a, il a un titre anglais, bien sûr. Non, écoutez, son titre, c'est Ostatnia Rodzina. Voilà, le titre polonais. Je le rétablis parce que je ne comprends décidément pas pourquoi un film polonais sort avec un titre anglais en France. Il faudra qu'on m'explique. Mais enfin, bon, il y a des distributeurs.
Ça.
À part ça, ce film est d'un glauque achevé. Il a deux couleurs, hein, à peu près. Les images sont deux couleurs, vert ou marron. Vous voyez, il n'y a pas de quoi sauter de joie et dans l'hilarité générale. Avec des répliques du genre, un père qui dit à son fils, s'il te plaît, ne te suicide pas avant la mort de ta mère. Bon, on est quand même là-dedans, c'est-à-dire que, et les femmes sont sans objet dans le film en plus, ça s'intéresse à un peintre dont la peinture est inintéressante. Moi, je veux bien, c'est-à-dire on peut faire des portraits de peintres inintéressants, à ce point-là, une sorte de psychédélisme, pardon, sans intérêt, mais quand ça devient à ce point-là glauque, quand le seul propos du film, c'est de montrer comment on peut s'ennuyer en famille, ou avec une famille qui est à la fois disloqué, disparate et sans intérêt, j'ai eu le sentiment d'être en permanence manipulé avec une volonté énergique de faire et dans le glauque et dans l'ennui.
C'est le biopic le plus passionnant qui m'a été donné de voir depuis longtemps. Portrait d'une famille dysfonctionnelle, pleine de névrose, avec un artiste au milieu. Ou comment créer dans de pareilles conditions de confusion, de bagarre et du péril permanent de ce fils dingue et de ses accès de lucidité. Il dit « Je sais que je ne peux pas vivre, mais tout le monde me persuade du contraire ». Ça, c'est une sacrée réplique. Lorsque l'on regarde de plus près les peintures, ce que j'ai fait après le film, elle raconte vraiment cette fureur, cette folie, cette morbidité auquel le jeune cinéaste a réussi à associer l'humour dévastateur dans ce film, a dit un journaliste positif profondément dépressif, certes, mais plein de vérité. À vous de faire votre choix.
Je suis les jurés, bonsoir.
L'enfant de Goa, c'est un premier film de Miranj Kanaik qui, au début des années 2000, à travers le regard de Santosh, 16 ans, les chroniques du village de Borimol, donc à Goa, loin des touristes, beaucoup de pauvreté.
Oui, alors ce sont des nouvelles du cinéma indien qu'on aime bien recevoir parce qu'on a l'image du cinéma indien de Bollywood. Or, on le sait, fort heureusement, il y a un cinéma indien indépendant. Alors, les nouvelles sont fractionnées, rares. Et bien, celle-là en est une bonne. C'est un film extrêmement dur. C'est à la fois une histoire vraie, jouée par des acteurs amateurs dans des décors naturels, mais il y a un propos cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a un vrai regard porté et sur cette misère, et sur cette difficulté sociale, et sur ce personnage, effectivement, qui va partir en guerre, en quelque sorte, contre le mafieux qui essaye, lui, évidemment, de l'opprimer. C'est de ce point de vue-là vraiment un regard qui nous vient d'Inde et qu'il convient d'apprécier à sa juste mesure.
In the Fate de Fatih Akin, la vie de Katia s'effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe commis par des néo-nazis. Que Diane Kruger sorte indemne d'un tel ratage méritait bien une récompense, a écrit Nicolas Chaleur dans le Nouvel Obs en évoquant son prix d'interprétation à Cannes. Pour le reste, In the Fate, le film, c'est le film le plus indigne dans la filmo de Fatih Akin, lui qui nous avait habitués à tant de subtilité dans la complexité des situations qu'il décrit habituellement. Je dirais même plus, on ne reconnaît plus Fatih Akin dans ce film, comme s'il avait cherché à renaître après 2-3 échecs en appuyant sur les mauvais boutons, l'émotion, le pathos et la facilité narrative. On se rappellera alors de ses grands films, Head On, Crossing the Bridge ou De l'autre côté.
Indigne.
On va passer sur Le rire de ma mère. Premier film de Colombe Savignac et Pascal Rallit. Vu le sujet, on pouvait s'attendre à un traitement violonneux. Tire l'arme à Adrien, un jeune garçon de 11 ans, dont les parents se sont séparés, tombe amoureux et en même temps doit vivre douloureusement le cancer et les dernières semaines de vie de sa mère. Drame d'un côté, initiation de l'autre. Les auteurs ont réussi à maintenir un certain équilibre, sans pathos ni complaisance, avec pudeur. Le tout incarné par des interprètes sobres et lumineux, notamment Pascal de Molon, Sabrina Sefcu qui joue l'autre femme, la belle-mère, et le jeune Igor Van Dessel, vu très récemment dans L'échange des princesses, où il joue tout simplement Louis XV.
Oui, je serais moins gentil que vous, mais c'est parce que j'ai pas de cœur, donc c'est normal.
D'accord. Alice Comédie, Walt Disney, restauré et éditorialisé par Malavida, saluons leur remarquable travail. Donc c'est une série de courts-métrages d'animation de 23 à 27, et c'est les débuts de la carrière de Disney.
Et oui, avec
ce sont les débuts.
Oui, avec un produit, si je puis dire, un film très étonnant. C'est une véritable petite actrice qui a 4 ans et qui joue donc le rôle d'Alice. Et elle est confrontée à des personnages animés, à des personnages dessinés par Walt Disney. Donc c'est très très moderne. On est dans les années 20. Donc franchement, c'est incroyable et c'est d'une fraîcheur absolue. C'est Malavida qui restaure.
Oui.
Le DVD des volumes 1 vient de sortir. On peut aller voir en salle et vraiment, alors là, en grande famille, c'est réjouissant. Alice Comédie.
Et c'est la bande originale est composée par Manu Chao.
Oui,
alors, qui un jour est passé par hasard chez eux.
Ils n'étaient pas vivants
à l'époque. Ils n'avaient pas appelé par hasard leur distribution Malavida et il a offert de leur faire la musique de ce Alice Comédie de Vive Manu Chao. On va terminer avec le Monde des Stones au Forum des images
à Paris,
jusqu'au 28 février. Donc un portrait chargé d'histoire et de mythologie américaine à travers une sélection de 80 films et la présence exceptionnelle d'Oliver Stone. Et Laurent, maintenant on peut passer au cadeau.
Mais oui, alors pour chacun d'entre vous, d'abord Petit Paysan, dont on a beaucoup parlé ici, voilà, d'Hubert Charuel, premier film assez remarquable, hein, cette espèce de polar paysan, on va dire, agricole.
Est-ce que vous l'avez vu ?
Ah mais non, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe du film à Angoulême.
Mais il faut voter pour Benoît ou César. Emmanuel aussi,
non,
hein.
J'avoue que je l'ai pas vu, évidemment.
Oh là là, mais alors écoutez, génial, mais génial.
Ils
ont été récompensés, hein, au festival.
Oui, mais bon, absolument. Il mériterait un César du premier film, hein, par parenthèse.
Et l'autre film, autre concurrent au César, multi récompensé, 120 battements par minute de Robin Campillo chez Memento, avec notamment un commentaire audio de Robin Campillo. Ça, c'est toujours extrêmement précieux quand les DVD nous permettent d'entendre la voix du réalisateur. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
Et pareil, vous n'avez pas vu celui-là ?
Si, moi je l'ai vu.
Ah d'accord.
Et vous ? Je comptais le voir.
Bon. Et voilà, maintenant vous le verrez.
On en a beaucoup parlé.
Et vous votez tous les deux au César, bien sûr.
Moi je vote pas.
Ah bon ? Pourquoi ?
Principe.
Je suis inscrit, je suis pas inscrit. J'aime pas voir arriver les coffrets. Je trouve ça...
Bon, très bien.
C'est votre choix.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour ce grand film. Oui, Emmanuel merci, Finkiel, merci pour cette grande interprétation, Benama Gimel. La douleur, qui sort mercredi prochain. Générique avec vous deux. Je vous fais signe. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son. J'ajouterais que le contraire est aussi valable.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Emmanuel Finkiel, j'y étais.
Et moi, Benoît Magimel aussi.